Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre du prophète Habacuc. Nous avions commencé avant les vacances de Noël, avant la période de Noël, disons, ce n'est pas des vacances pour tout le monde, mais avant la période de Noël, l'étude de ce petit prophète. Je ne sais pas s'il y a dans cette salle des personnes qui n'ont jamais encore lu le prophète Habacuc. Peut-être c'est le cas, il faut le faire, et je rappelle cette petite histoire que je vous ai dit la dernière fois, qu'avait rappelé le frère Steve, anglais Steve Taylor, qui était venu pour encourager la jeunesse à lire tous les livres de la Bible, essayer de lire la Bible en une année, et il avait dit, imaginez, vous arrivez au ciel, et puis vous faites connaissance avec les uns et les autres, et vous tombez sur quelqu'un, et puis vous dites, comment tu t'appelles? Il vous dit, je m'appelle Habacuc. Et vous dites, Habacuc, jamais entendu. Ce sera une honte. Vous direz, mais j'ai écrit un livre même de la Bible. Bon, d'accord, ça va être une honte. Si Dieu a écrit des choses, s'il a utilisé des hommes pour les écrire, eh bien, c'est qu'il veut que nous les lisions. Donc, je vous invite donc à lire, ça se lit très rapidement, c'est trois petits chapitres, donc Habacuc fait partie de ce qu'on appelle les petits prophètes, par la taille de leurs écrits, mais ce n'est pas petit dans le sens de la personne, c'est petit dans le volume, on pourrait dire, de la prophétie. On ne sait pas grand-chose, je rappelle qu'on ne sait pas grand-chose de lui, sinon ce qui est dit là dans ce livre, son nom signifie peut-être embrassé. Et puis son livre a été rédigé environ entre 700 et 600 avant Jésus-Christ. Et c'est un livre qui est dans lequel on assiste à un mouvement entre le prophète et puis Dieu, où il y a une suite de questions-réponses. Habacuc qui questionne et puis Dieu qui répond. Et cette suite de questions-réponses entre Dieu et le prophète Habacuc touche à l'épineux problème de la manifestation de la justice de Dieu dans un monde où le mal semble régner. Comment expliquer que l'existence d'un Dieu bon, tout-puissant, à côté et d'un côté, et puis de l'autre, l'existence du mal. Et on voit dans ce livre un prophète qui est déconcerté, qui est perplexe face à ce qu'il voit se manifester comme méchanceté, parfois comme méchanceté dans son propre peuple, et donc alors qu'il sait que Dieu peut intervenir. C'est souvent ce que nous disent les gens, n'est-ce pas? Si Dieu est bon, pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas pour changer les choses? Et peut-être que c'est ce que nous nous disons nous-mêmes, souvent. Si Dieu est même tant que cela, pourquoi est-ce qu'il ne permet pas que ma situation soit différente ou que les choses changent? Et on voit un prophète, Habacuc, qui est à la fois troublé par l'apparent silence de Dieu. Si vous regardez au chapitre 1, il dit, verset 2, il dit, « Jusqu'à quand, Éternel? J'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. » Il semble dire que Dieu est silencieux, que Dieu n'écoute pas ici. Et puis, on pourrait dire qu'il reproche à Dieu un peu son immobilisme, on a bien vu ça. Et puis, quand Dieu décide enfin d'intervenir, eh bien, le prophète ne comprend pas. Il ne comprend pas. Il demande à Dieu de faire des choses. Pourquoi? Il crie, il persévère dans sa prière. Et puis, quand Dieu intervient, que Dieu dit ce qu'il va faire, eh bien là, c'est pire qu'avant, sa compréhension. Et c'est un homme perplexe ici. Habacuc est un homme qui souffre vraiment le déclin spirituel et moral de son peuple, de Juda. Et il ne saisit en même temps pas la manière d'agir du Dieu saint et tout-puissant. Il crie à Dieu, il s'attend à ce que Dieu intervienne, et que Dieu change le cœur du peuple, peut-être qu'il suscite un esprit de repentance, qu'il y ait un réveil, mais là, il voit que Dieu va faire quelque chose. Et Dieu lui-même dit, verset 5, il dit, « Soyez saisis d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. » Donc, c'est quelque chose de stupéfiant qui va se passer. Et Habacuc ne comprend pas. Ce qu'Habacuc ne comprend pas, surtout, c'est que Dieu puisse se servir d'une telle méthode contre son peuple. Il ne comprend pas que Dieu puisse utiliser un peuple comme les Chaldéens, les Babyloniens, peuple, dit le texte, furibond, méchant, par-dessus tout, pour châtier celui qui est le peuple de Juda, celui qui est plus juste que lui. C'est ce qu'il dit au verset 13, chapitre 1, regardez, il dit, « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui ?» Et puis Dieu répond au chapitre 2 à Habacuc, où il montre qu'il est un Dieu juste et que le méchant recevra sa rétribution. Alors si vous lisez chapitre 2, verset 6, il y a une série de malheurs qui sont prononcés contre le méchant. Et puis au verset 5, il dit que pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il ne laisse pas le peuple orgueilleux demeurer tranquille. Il ne faut pas croire que Dieu n'est pas un Dieu juste. Il dit qu'il va intervenir. Mais qu'à travers cela, il dit qu'il y a une issue pour le juste. Le juste, dit-il au verset 4, vivra par sa foi. Verset qui est cité par Paul, puis dans le Nouveau Testament. Le juste vivra par sa foi. Et puis le chapitre 2 se termine avec cette exaltation de Dieu, manifestation de la toute-puissante souveraineté de Dieu. Verset 20 dit, « L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. » Une manière de dire, mais qui est l'homme pour même penser, lever la main et questionner, de dire, « Dieu est dans son saint temple, et que la terre entière fasse silence devant lui, devant sa majesté. » Et on arrive au chapitre 3, et ce chapitre est désigné « Prière d'Habacuc ». Tout le chapitre 3 est désigné comme une prière d'Habacuc. Et c'est un homme différent que l'on voit ici. On a dans les deux premiers chapitres, ou surtout dans le premier, l'homme des « pourquoi ». Il pose à Dieu des questions, qu'il ne comprend pas pourquoi les choses sont ainsi, pourquoi, alors que Dieu est tout-puissant, il n'intervient pas, pourquoi il n'écoute pas. C'est l'homme qui ne comprend pas comment Dieu agit, pourquoi tu agis comme cela, tu utilises un peuple méchant, mauvais, pour châtier ton propre peuple, alors que celui-ci, il est plus juste que celui-là. Ici, c'est un homme qui prie, mais avec une attitude particulière. Alors, nous allons lire ce chapitre, et tout le chapitre est une prière. Je crois qu'on peut distinguer trois ou quatre, suivant comme on lit, parties dans cette prière. Le verset 2, déjà, qui relate la supplication, la prière même, on pourrait dire, telle que nous la concevons, d'Habacuc. Les versets 3 et 15, qui sont une exposition des délivrances ou de l'œuvre de Dieu. Et puis, on a quelque chose qui ressemble à un triomphe final, un triomphe joyeux, une pleine confiance d'Habacuc en Dieu. Quand on termine le verset 19, dit « L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. » Donc c'est vraiment une prière assez longue. La Bible contient des prières qui sont parfois longues, parfois très courtes. Il y en a de toutes sortes. Et celle-ci est une prière particulière, et beaucoup disent que elle est faite sous forme d'une poésie hébraïque. D'ailleurs, quand vous regardez à la fin, il est dit au chef des chantres avec instrument à cordes. Donc c'est quelque chose qui était probablement amené à être chanté, accompagné musicalement. On ne va pas tout voir ce matin, mais je voudrais juste, considérer ce que l'on peut apprendre un peu de la prière d'Habacuc. Toute l'écriture nous dit, la Bible est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre et corriger. Et je crois que nous pouvons apprendre des prières de la Bible aussi, tirer un enseignement des prières de la Bible. Alors, on va lire ensemble ce chapitre 3. Prière d'Habacuc, le prophète, sur le mode des complaintes. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la, mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Dieu vient de Théman, le Saint vient de la montagne de Paran. Pause. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière des rayons pendant partent de sa main. Là réside sa force. Devant lui marche la peste et la peste est sur ses traces. Il s'arrête et de l'œil il mesure la terre. Il regarde et il fait trembler les nations. Les montagnes séculaires se brisent et les collines antiques s'abaissent. Les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Je vois dans la détresse des tentes de l'Éthiopie et les tentes du pays de Madian sont dans l'épouvante. Éternel, est-il irrité contre les fleuves? Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère? Contre la mer que se répand ta fureur pour que tu sois monté sur tes chevaux, sur ton char de victoire? Ton arc est mis à nu. Les malédictions sont les traits de ta parole. Pause. Tu fends la terre pour donner cours au fleuve. À ton aspect, les montagnes tremblent et les torrents d'eau se précipitent. L'abîme fait entendre sa voix. Il lève ses mains en haut. Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure, à la lumière de tes flèches qui partent, à la clarté de ta lance qui brille. Tu parcours la terre dans ta fureur, tu écrases les nations dans ta colère. Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton roi. Tu brises le faîte de la maison du méchant, tu la détruis de fond en comble. Pause. Tu perces de tes traits la tête de ses chefs, qui se précipite comme la tempête pour se disperser, poussant des cris de joie, comme s'ils dévoraient déjà malheureux dans leur repère. Avec tes chevaux, tu foules la mer, la boue des grandes eaux. J'ai entendu, et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument, et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas leur nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés, au chef des chantres, avec instrument à cordes. D'accord, donc si on vous avait lu cela sans parler du début, on aurait du mal à interpréter cela comme une, considérer cela comme une prière. Et pourtant, c'est une prière. Alors nous voulons considérer la nature de cette prière, un peu les, comme j'ai dit tout à l'heure, les prières de la Bible, elles sont souvent différentes, elles sont variées, on trouve des longues, des moins longues, on trouve parfois juste une phrase. Il y a des prières d'adoration, des prières de supplication, des prières qui sont de simples cris, d'autres qui sont des transports de joie. Ici, la prière d'Habacuc est un peu différente. Elle est on pourrait dire, modelé par la révélation qu'il reçoit de Dieu. Il commence en disant, Éternel, j'ai entendu. Quand on considère tout ce qui s'est passé auparavant, les échanges, prières, réponses successives qu'il y a eu entre Habacuc et Dieu ici, sa prière est comme façonnée par ce qu'il a reçu de Dieu. Par deux fois, il dit verset 16 aussi, il dit « j'ai entendu ce que tu as annoncé et je suis saisi de crainte ». Ce qu'il a entendu le motive vraiment à prier. Mais sa prière ne se limite pas seulement à ce qu'il a entendu dans cette situation présente. Sa prière, quand on lit tout le reste, semble rassembler un peu tout ce qu'il sait de Dieu et particulièrement de ses œuvres et de sa puissance, la manière avec laquelle il se manifeste. Et donc, c'est une composition, on pourrait dire, ça pourrait être une composition poétique des œuvres de Dieu dans l'histoire, au chapitre 3, verset 3 jusqu'au verset 15. Et cette composition laisse supposer que ce n'est pas une prière que l'on fait comme ça. C'est quelque chose qui est réfléchi, qui est mûri, où il a rassemblé des choses qu'il a pu lire de Dieu et puis qu'il expose. Quand on regarde, il y a des allusions à la délivrance d'Égypte dans ce passage. Il y a des choses que Dieu a fait auparavant. Donc il rassemble ces choses. Ce n'est pas une prière spontanée, mais une prière qui suppose une méditation préalable de ce que Dieu a fait, et particulièrement de ses œuvres. Il dit le Saint vient de la montagne de Paran, sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. Il dit, c'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main. On pourrait penser à Dieu quand il crée les choses ici dans la Genèse. Donc on pourrait voir ainsi plusieurs allusions, mais ce que je voudrais souligner, c'est que Habacuc prend ce qu'il sait des œuvres de Dieu, et puis il les place, pas toutes, forcément toutes, mais il les place comme, il construit un tableau, une espèce de fresque, on pourrait dire, et puis il les énumère, il les exprime dans sa prière. Il parle de la grandeur de Dieu. Face à son incompréhension des méthodes de Dieu, il choisit d'écrire un poème, de composer un poème qui met en évidence toute la puissance de Dieu, toute la grandeur de sa gloire. C'est quelque chose qu'il fait dans un temps où il attend la désolation, dans le temps où il attend que les Chaldéens viennent envahir et frapper son propre peuple, où il attend l'accomplissement de la prophétie, l'accomplissement du jugement de Dieu. Ce qui, après avoir discuté, exprimé son incompréhension et avoir reçu la révélation de Dieu, tout cela le pousse à considérer à nouveau qui est Dieu et quelles ont été ses œuvres dans le passé. Et on ne va pas voir tout ce qu'il dit ici, mais Il parle de cette autorité de Dieu sur toutes choses, à la fois sur la nature et aussi sur les nations. Il voit combien Dieu est grand ici. Il lui semblait que Dieu ne répondait pas à sa prière, et maintenant il va montrer comment Dieu a agi par le passé et comment il est puissant. Verset 6, il dit, il s'arrête et de l'œil il mesure la terre, il regarde et il fait trembler les nations. Pas besoin pour lui de parler, de crier, d'élever la voix. Il regarde et les nations tremblent. C'est comme les parents qui ont de l'autorité sur leurs enfants. Il suffit souvent d'un regard. Moi, je vois des fois des enfants qui ont des autorités sur le parent. Et des fois, ils n'ont que 2 ans. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et les parents ont beau crier, ont beau parler, il ne se passe rien ici. Mais quand les parents ont exercer l'autorité comme ils doivent le faire sur leurs enfants, eh bien, quand ils font des bêtises, souvent il suffit d'un regard. Hein, d'un regard. Et l'enfant a compris, tout de suite il se range. Il dit, ah, le temps est en train de changer. J'ai intérêt à... Eh bien, c'est un peu ce que, presque ce qu'Habacuc dit ici, concernant comment Dieu guide les choses. Il dit, il regarde, il mesure, il avec son œil, hein, il dit, il s'arrête et de l'œil, il mesure la terre, verset 6. Il regarde et il la fait trembler. Pas besoin, donc c'est pour montrer à quel point toutes choses lui sont soumises ici. Donc le verset, et puis surtout, bon, je saute au verset 13, le verset 13 exprime encore d'une manière, je pourrais dire un peu en résumé, ce que Dieu fait, en quoi consiste l'œuvre de Dieu. Et il dit ici, tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton roi. Et c'est vrai que quand on lit l'Écriture, depuis la Genèse chapitre 3 verset 15, où Dieu a fait la promesse après la chute, après l'œuvre de création et la chute de l'homme, où il a fait la promesse d'envoyer celui qui écrasera la tête du serpent, eh bien, son œuvre consiste à délivrer. Il dit que Dieu sort pour délivrer son peuple. Il annonce en Genèse 3:15 une délivrance à venir. Et tout le reste de l'Écriture parle de cette œuvre, de grande œuvre de délivrance de Dieu. Rappelez-vous ce que Joseph a dit à ses frères lorsqu'ils sont venus en Égypte après l'avoir livré et qu'il y avait une famine. Et vous vous rappelez, on ne va pas relire tout cela, mais Joseph voit ses frères en Genèse 45 et puis il dit, Dieu m'a... Il dit, ne soyez pas fâchés parce que ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Et il dit, pour vous faire subsister dans le pays et vous faire vivre une grande délivrance. C'est la manière par laquelle Dieu a protégé la... Qui c'est qui l'a protégé ici? Il a protégé Judas, hein, parce que c'est de Judas que vient la descendance de Christ. Donc, comme c'est vrai qu'on aime lire l'histoire de Joseph en pensant uniquement à Joseph, mais il faut la lire avec un regard beaucoup plus étendu de ce que Dieu est en train d'accomplir. Et en envoyant Joseph en Égypte, et Joseph lui-même, il ne dit pas c'est pour me sauver la vie que Dieu m'a envoyé là. Il dit non, c'est pour vous sauver la vie, pour vous faire connaître une grande délivrance ici. Et rappelez-vous ce que Dieu dit quand il envoie plus tard, quand le peuple d'Israël cette fois-ci reste en Égypte après Joseph est mort depuis bien longtemps et le peuple passe 430 ans en Égypte et au bout de ces 430 ans, Dieu dit à Moïse ceci, il dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. » Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et encore, on voit ici cette œuvre de délivrance dont Dieu parle, qui est en train de se dérouler ici. Et je saute, mais beaucoup plus tard, n'est-ce pas, lorsque le Seigneur Jésus vient, celui qui est le sauveur du monde, eh bien, on avait vu cela à Noël, pensez à ce cantique de Zacharie quand il dit que Dieu a suscité un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Et quand on lit le Nouveau Testament, eh bien, on voit que Jésus-Christ est celui qui nous délivre véritablement. Éphésiens, 1 Thessaloniciens 1, verset 10, l'apôtre Paul parle des Thessaloniciens en leur disant, on raconte comment vous vous êtes convertis en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre, dit-il, des cieux, celui, son fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Et donc, pensez à l'œuvre de Dieu. On pourrait dire, c'est penser à ce verset 13 là du chapitre 3 de Malachie, c'est qu'il est en train de sortir pour délivrer son peuple et délivrer son roi. Je crois que c'est dans Hébreu hein, qu'il est question de celui qui a crié avec larmes hein, concernant Jésus-Christ. Il a crié à celui qui pouvait le délivrer de la mort. Hein. Et il a été exaucé, l'Épître aux Hébreux, à cause de sa piété. Hein. Et toute l'Écriture est cette grande œuvre de la rédemption qui est racontée. Donc, lorsqu'Habacuc... je ne dis pas qu'Habacuc avait toute cette vision, hein, mais on voit qu'il, sous l'inspiration du Saint-Esprit, au verset 13, c'est peut-être là que se trouve le concentré hein, de tout ce sur quoi il médite. Ce que Dieu est en train de faire, dans tout ce que Dieu est en train de faire, il est en train d'accomplir une œuvre de délivrance pour sauver les hommes, sauver son peuple, sauver ce qu'il a racheté, sauver ses élus, sauver... Donc ce que l'on peut retenir, c'est que cette prière trouve sa principale expression, ici on pourrait dire, dans la révélation de Dieu, dans l'énumération de ses œuvres, et particulièrement de ses œuvres de création et de rédemption. Et c'est ce que fait Habacuc. Maintenant, après avoir discuté, on pourrait dire, questionné avec Dieu, après avoir reçu la révélation de Dieu, il trouve un refuge dans la méditation des œuvres de Dieu dans le passé. Il médite ces choses, il les énumère, il les reprend, il les repasse devant ses yeux. Et dans sa prière, il les dit ici. Deuxième chose que je voudrais souligner, c'est vraiment l'attitude du prophète dans la prière. On voit ici au verset 2, regardez, considérez le verset 2. On voit une attitude, premièrement, d'humilité du prophète dans la prière. Il se tient, le verset 16 le dit peut-être plus clairement, il se tient, dit-il, en silence et il attend le jour de la détresse. C'est plus le prophète des pourquoi, hein, il dit j'ai crié, rappelez-vous au verset 2 du chapitre 1, il dit jusqu'à quand Éternel ? J'ai crié, ça veut dire qu'il a crié pendant longtemps, ça fait longtemps qu'il crie. Et Dieu ne répond pas. Il dit, tu ne secoues pas, pourquoi ne me fais-tu voir l'iniquité, contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Pourquoi? Il dit, j'ai crié. Et jusqu'à quand je vais crier? Et là, il dit, en silence, verset 16, chapitre 3, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre son peuple. Donc c'est un homme qui parle maintenant, on pourrait dire, dans l'humilité. Il s'humilie devant Dieu, il se tient en silence, il se soumet au jugement à venir de Dieu sur sa nation. Il dit même au verset 2, « Accomplis ton œuvre au cours des années, dans le cours des années, manifeste-la. » Alors on peut penser à cette œuvre que Dieu va accomplir de jugement, mais aussi à toutes les œuvres qu'il va énumérer plus tard, qui sont aussi les œuvres de Dieu. Il ne plaide même pas pour une atténuation de la sentence. Il ne dit même pas, je pense que c'est dans le livre d'Amos qu'on trouve cela, où le prophète prie, il dit, mais Jacob, il est si faible, tu vas pas. Et puis Dieu dit, voilà, qu'il ne va pas le faire, il va pas. Il dit, mais Jacob est si faible à chaque fois. Il négocie avec Dieu en présentant la faiblesse de Jacob, du peuple. Ici, Habacuc ne fait pas cela. Il s'en remet complètement au jugement de Dieu. Il sait maintenant qu'il est inéluctable, qu'il va se produire. Et donc, il accepte cela dans l'humilité. Son regard a changé sur la situation. Alors, rien n'a changé dans cette situation. La méchanceté continue d'exister. Le dessein de Dieu va s'accomplir, mais sa manière de considérer les choses a changé. Au lieu de considérer son peuple, et puis les Babyloniens, et de les comparer la justice de l'un par rapport à la justice de l'autre, et puis dire celui-ci est plus juste que celui-là, et qu'il est impossible que Dieu utilise celui le moins juste pour châtier le plus juste, son regard a complètement changé de direction. On le voit dans la suite, c'est vers Dieu uniquement qu'il se porte. il considère vraiment la sainteté de Dieu, sa grandeur et ses œuvres. Verset 3, il dit « Le Saint vient de la montagne de Paran. » Quand le prophète regarde et s'arrête à Juda, bien sûr, il trouve que les Babyloniens sont les pires pécheurs qui existent et il tire des conclusions sur comment Dieu devrait utiliser les uns par rapport aux autres. Mais quand il élève ses yeux et qu'il regarde à Dieu et qu'il se place du point de vue de la sainteté de Dieu, il comprend que de ce point de vue-là, la seule conclusion que l'on peut tirer, c'est que tous les hommes sont pécheurs, à la fois Judas et à la fois les Babyloniens. Et c'est exactement ce que Paul dit, rappelez-vous, dans l'Épître aux Romains. Il dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Les Juifs, avec la loi, sont pécheurs. Les païens, sans la loi, sont pécheurs. Et il dit que Dieu a fait en sorte que toute bouche soit fermée devant lui. Parce que tous sont pécheurs. Et c'est de manière verticale que l'on doit apprendre à regarder les choses. Tant que les regards se posent horizontalement les uns sur les autres, que ça peut nous arriver, on se compare les uns aux autres, on compare son église à une autre, on compare sa vie à celle d'un autre. Et on en trouve qui sont meilleurs que nous, mais on en trouve aussi qui sont pires. Alors on peut parfois dire, oui c'est sûr, hein, je ne suis pas le meilleur des chrétiens, mais j'en connais qui sont pires. Hein. Et donc finalement, ce n'est pas si mauvais que ça. C'est un peu ce qu'Habacuc avait. Tu peux, oui Seigneur, c'est sûr, ce peuple, je souffre avec ce peuple. C'est vrai qu'il est, moralement, c'est le déclin spirituel, mais quand même, par rapport aux Babyloniens, il n'y a pas photo. Mais quand il regarde vraiment du point de vue de Dieu, eh bien, il se soumet au jugement que Dieu va accomplir, parce qu'il comprend que, dans l'humilité, eh bien, que tous sont pécheurs. Et il y a un auteur qui s'appelle Martin Lloyd-Jones, il disait ceci à propos de ce passage, il dit « Il n'est ni biblique, ni spirituel de ne regarder qu'aux impies. » Et souvent on fait ça, on regarde à ceux qui ne connaissent pas Dieu, et on pointe du doigt pour pouvoir s'attirer un petit peu notre propre justice. Mais il dit qu'il n'est pas biblique d'agir ainsi, ni spirituel de regarder aux impies. C'est à Dieu qu'il faut regarder. Et quand on regarde à l'homme, c'est au péché. Et particulièrement quand on regarde à soi-même. Et ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut apprendre à voir le péché chez nous et nous repentir. Habacuc doit apprendre à voir le péché chez son peuple et le fait que Dieu est un Dieu saint et que le salaire du péché, eh bien, c'est la mort, c'est le jugement que Dieu doit amener. Et donc on ne peut s'approcher de Dieu en avançant une quelconque position. Ce qui fait la différence entre le publicain et le pharisien, vous vous rappelez, c'est quoi? C'est la manière de considérer les choses. Il y en a un qui considérait les choses de manière horizontale. C'était le pharisien. Il dit, je te loue dans sa prière, dans Luc chapitre 18, de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. C'est une comparaison horizontale. Il dit, je jeûne, je donne la dîme de tous mes revenus. Et il est satisfait. Comment Dieu ne pourrait pas le recevoir quand Dieu compare avec l'autre quand même? Mais Jésus raconte qu'il y a aussi le publicain, le collecteur d'impôts, qui monte et qui prie et qui n'ose même pas lever les yeux. Il se frappe la poitrine et il dit quoi? Il dit, ô Dieu, sois apaisé, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Dieu, pécheur. D'accord? Le pharisien, c'était lui, moi meilleur. C'était une comparaison horizontale. Et là, dans la prière du publicain, on voit qu'il prend les choses du point de vue de Dieu. Il considère Dieu dans sa sainteté. Et quand il se voit, il ne se voit qu'avec un mot, pécheur. Et c'est ainsi que l'on doit apprendre à considérer les choses. La Bible affirme que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Et cette manière de s'approcher dans la prière d'Habacuc est une manière humble dans laquelle il se soumet à ce que Dieu fait. Il ne considère plus Juda d'un côté et les Babyloniens de l'autre, mais il considère Dieu dans un premier temps dans sa sainteté, et puis le peuple qui est pécheur et qui mérite le châtiment que Dieu leur envoie. Et je voudrais dire, chers frères et sœurs, que l'orgueil est souvent bien plus présent dans notre cœur que nous voudrions le croire. Et ce dont nous avons besoin quand nous prions, quand nous nous approchons de Dieu, eh bien, c'est d'avoir cette attitude d'humilité, comme l'a Habacuc dans sa prière. Deuxième chose qu'on peut voir dans cette attitude, c'est l'attitude d'adoration aussi. Il dit, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte. Je suis saisi de crainte. Alors, parfois on peut penser que la crainte ici exprime la peur, mais elle exprime aussi la révérence. Hein. Quand on est face à ce que Dieu fait, à ce qu'il va faire, on est empreint d'un saint respect. Qu'il prononce une parole de bénédiction ou qu'il prononce une parole de jugement, les deux expriment sa grandeur, sa magnificence, sa majesté et forcent le respect et l'adoration. Et donc la révélation de Dieu, elle force ce respect-là, n'est-ce pas? C'est ce que Paul dit quand il dit que tout genou fléchira devant Jésus-Christ, soit dans les cieux, sur la terre, toute langue, quelle qu'elle soit, confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Dieu est digne d'adoration. À la fois ceux qui subiront le châtiment et ceux qui seront avec lui, les deux ne pourront, l'un dans la félicité, eh bien, pourra glorifier Dieu pour ce qu'il a fait, mais l'autre dans la crainte et sera dans le respect de la souffrance, mais dans le respect de ce que Dieu dans ce que Dieu est vraiment. Et donc, Habacuc s'approche de Dieu avec cette attitude d'adoration que nous devons avoir souvent quand nous nous approchons de Dieu aussi dans la prière. Adorer Dieu, c'est une chose importante. À être plein d'un saint respect. Cela suppose ce que nous pensons, ce que nous disons, mais comment nous le faisons aussi. Est-ce qu'on s'approche de Dieu en regardant la télé ou en, je sais pas moi, en faisant autre chose, on lit la Bible, la télé d'un côté, la Bible de l'autre, ou est-ce que vraiment on est dans une attitude respectueuse, d'adoration quand on s'approche de lui? Est-ce que quand on s'approche de lui, eh bien, quand on se rend à une rencontre où on va être avec les frères et sœurs pour être avec Dieu, on y vient de n'importe quelle manière, on y vient à n'importe quelle heure, ou est-ce qu'on se prépare vraiment à le rencontrer à l'heure? C'est important, c'est une manière de montrer notre respect, notre adoration pour Dieu. Ce ne sont pas que des mots, ce ne sont pas que des choses, ce n'est pas que chanter « je t'adore, je t'adore, je t'adore » 15 fois, parfois on entend ça dans des cantiques. C'est beau de le dire, je ne sais pas qu'il ne faut pas le dire, mais ce n'est pas le fait de dire simplement « je t'adore » qui est une chose, c'est le fait d'adorer Dieu véritablement dans un saint respect, d'avoir cette crainte ici face à ce qu'il dit, face à son jugement, face à sa parole, trembler devant ses menaces, quand il menace, des fois. Toutes ces choses participent à une véritable adoration de Dieu. Et puis, troisième aspect de la prière d'Habacuc ici, c'est sa supplication. Il dit ici, il y a une double supplication, si j'ose dire, verset 2. Il dit, Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis dans la crainte. Ça, c'est son état, on pourrait dire. Et puis, il dit, accomplis, c'est sa requête, accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. Et le verbe accompli ici veut dire garde vivant. D'autres textes disent ravive ton œuvre, ou préserve-la. Je vous lis dans la traduction Martin, il dit « Éternel, j'ai oui ce que tu m'as fait ouïr, et j'ai été saisi de crainte, ô Éternel. Entretiens ton ouvrage en son être, parmi le cours des années. Donc il demande à Dieu d'accomplir ce qu'il est en train de faire, son œuvre qu'il est en train de faire. Son œuvre n'est pas que la destruction, le châtiment de Judas. Son œuvre, n'oubliez pas verset 13, c'est de sortir pour délivrer son peuple. Il le dit, il dit qu'il y aura du jugement, mais chapitre 2, verset 4, Dieu dit, le juste vivra par sa foi. Il y a une issue pour le juste, hein. On le voit bien ici. Donc Habacuc prie pour que Dieu réveille son œuvre, qu'il continue à l'appliquer, son œuvre de délivrance, qu'il continue à la mettre en œuvre. Et donc le souci du prophète est qu'au sein même de la calamité à venir, ce soit l'œuvre de Dieu qui s'accomplisse. L'œuvre de Dieu qui s'accomplisse. Le contenu de la prière de Jésus était pareil. Quand il nous demande de prier, il dit quoi ? Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Donc c'est le désir que l'œuvre de Dieu soit accomplie ici. Et puis, deuxième aspect de sa supplication, il dit, mets dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Et donc le prophète ne dit pas, souviens-toi de nous, combien nous sommes fragiles, combien nous sommes faibles, et vas-y doucement pour ne pas nous écraser trop. Il dit à Dieu, accomplis ton œuvre, manifeste-la. Et puis il dit, souviens-toi de ta miséricorde. Et ça veut dire que quand il supplie Dieu, il ne trouve absolument rien de la justice des hommes à placer devant Dieu qui pourrait retenir son bras. Tout ce sur quoi il peut s'appuyer, c'est ce que Dieu est lui-même. Dieu est un Dieu miséricordieux. Cela fait penser exactement à ce que Daniel dit quand il prie pour le peuple, hein, au bout des 70 ans, ou plus tard, de 70 ans de captivité. Il dit, Daniel prie Dieu, puis il dit au chapitre 9, verset 18, « Ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. » Ce n'est pas à cause de notre justice. J'ai déjà entendu parfois des gens qui prient, mais Dieu, après tout, ou même des gens qui prient pour d'autres, ils disent, Seigneur, tu as vu, regarde tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a abandonné pour te servir, aide-le. Ce n'est pas ainsi que l'on prie Dieu. D'accord ? On peut absolument rien trouver en nous-mêmes comme chose que nous ayons faite pour présenter à Dieu comme base sur laquelle il devrait s'appuyer pour nous venir en aide, ou pour nous secourir, ou pour nous épargner. Ce n'est qu'en Dieu seul qu'on peut trouver une motivation à l'exercice de sa bonté envers nous. Dieu nous sauve en vertu de ce qu'il est, pas en vertu de ce qu'il trouve chez nous. Et c'est quelque chose que l'on doit toujours avoir présent dans l'esprit. Habacuc prie ici et il dit à Dieu, accomplis ton œuvre, manifeste ton œuvre, mais souviens-toi de tes compassions ou souviens-toi de ta miséricorde. Et c'est encourageant de savoir que c'est sur ce que Dieu est que nous devons nous appuyer. Heureusement, si on devait s'appuyer sur notre propre justice, il n'y a rien de bon n'habite en nous, dit l'Écriture. Donc, une prière d'humiliation, d'adoration et puis aussi de supplication. Je termine là-dessus, chers frères et sœurs, en disant ici que on voit dans cette prière, en tout cas dans le début de cette prière d'Habacuc, que la Bible fournit vraiment à l'âme l'expression la plus profonde des sentiments d'adoration. Ce n'est pas dans les rayons du coucher de soleil ou dans les chants mélodieux des oiseaux qu'Habacuc a trouvé de quoi exprimer sa prière à Dieu, mais c'est dans l'Écriture, dans ce qu'elle révèle des œuvres de Dieu. Un peu comme Marie, vous vous souvenez de Marie, dans le cantique de Marie, eh bien, où elle cite beaucoup de passages de l'Écriture. Il y a chaque phrase est un passage de l'Ancien Testament dans l'adoration de cette toute jeune fille. Bon, ça montrait comment elle était empreinte de l'Écriture, la connaissance des œuvres de Dieu. Eh bien, ici, c'est la même chose. Le prophète, il se saisit de tout ce que Dieu a fait. Et c'est ce que Dieu a fait, l'œuvre accomplie par Dieu, telle qu'elle a été, qu'elles ont été révélées, qui lui fournit ici l'expression la plus profonde et la plus vraie de ses sentiments d'adoration. Quand le Seigneur Jésus est en proie au diable, qu'est-ce qu'il fait? À l'issue de 40 jours de jeûne, eh bien, il résiste non pas en innovant, en essayant d'inventer quelque chose d'autre, mais il s'appuie sur l'Écriture. Il la cite. À l'heure la plus terrible même de ses souffrances à la croix, qu'est-ce qu'il fait? Il cite le psaume 22. Et donc c'est dans l'Écriture, dans la connaissance des œuvres de Dieu, de ce que Dieu fait, qu'on voit les hommes de Dieu, qu'on voit Jésus-Christ puiser sa force. On peut dire que Dieu est grand en regardant la nature, mais on ne peut pas dire « tu sors pour délivrer ton peuple » en regardant simplement dans la nature. On peut voir la magnificence, il y a un grand Dieu, parce que vu comment c'est fait, etc. On peut dire cela en regardant la nature, mais on ne peut pas dire « Dieu est miséricordieux, il sort pour délivrer son peuple ». Voilà l'œuvre qu'il est en train d'accomplir, à moins que nous ne le lisions dans l'Écriture. Et c'est là que nous avons besoin de passer du temps. Nous devons donc, chers frères et sœurs, méditer et désirer voir l'œuvre de Dieu s'accomplir. C'est ça qu'a été la méditation et la recherche d'Habacuc. Méditer les œuvres de Dieu, c'est ce qu'il a fait dans ces quelques versets que nous avons vus ici. Le psaume 143, 4 et 5 dit « Mon esprit est abattu au-dedans de moi ». Voilà une situation identique à celle d'Habacuc. Qu'est-ce que je vais faire? Mon cœur est troublé. Habacuc était troublé en son sein. Eh bien, le psalmiste dit, 143, versets 4 et 5, il dit « Je me souviens des jours d'autrefois ». Exactement ce qu'Habacuc a fait. « Je médite sur toutes tes œuvres et je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains ». Et voilà pourquoi sa prière n'est pas une prière spontanée, c'est une prière qui vient après une méditation, comme on l'a dit au début, une réflexion de ce que Dieu a fait. Il est dans le trouble, en proie à la détresse, il ne comprend pas comment Dieu agit. Il se pose, il ouvre, si j'ose dire, son Ancien Testament, puisqu'il n'avait pas quelques livres qu'il avait, et puis il lit, et il médite ces choses. Et il réfléchit là-dessus. Ça veut dire, c'est pas simplement une lecture furtive, c'est une lecture dans laquelle on se penche sur les choses, on les fait venir à notre mémoire, on travaille avec jusqu'à ce qu'elles puissent alimenter notre cœur dans la connaissance de Dieu et puis dans la communion avec lui. C'est pour ça que c'est important de méditer. On fait souvent les psaumes, hein, d'étudier les psaumes, parce que elles expriment vraiment tout ce que ces auteurs ont vécu comme expérience et comment ils ont fait. Ici, ce psalmiste nous dit voilà ce qu'il fait quand il est troublé. Il se souvient des jours d'autrefois et il médite toutes les œuvres. Compte les bienfaits de Dieu, c'est ça nous dit le cantique, n'est-ce pas? Et tu verras combien le nombre en est grand. Nous avons, chers frères et sœurs, des œuvres encore plus étendues à contempler que n'avait Habacuc. Habacuc n'avait pas le Nouveau Testament. Nous avons toute la parole de Dieu. Habacuc n'avait pas, certainement pas, une compréhension exacte de comment Dieu allait faire les choses et comment est-ce qu'il délivrerait finalement son peuple, même s'il l'écrit. Nous avons cette connaissance. Et donc nous avons beaucoup plus, si j'ose dire, d'œuvres à contempler qu'Habacuc n'avait. Et Que faisons-nous avec cette collection d'œuvres? Est-ce que nous savons les prendre comme Habacuc et puis les dresser comme une fresque pour pouvoir les contempler et les méditer, surtout dans les temps difficiles comme celui que nous vivons aujourd'hui? Ou est-ce que nos yeux sont sur les circonstances horizontalement? Est-ce que nous crions, mais pourquoi Dieu ne nous délivre pas? Pourquoi est-ce qu'il permet que je tombe malade? Pourquoi est-ce qu'il ne permet pas que ce virus s'en aille? Ou est-ce que nous prenons les œuvres de Dieu, nous réfléchissons sur ce qu'il a accompli en Jésus-Christ? Est-ce que l'œuvre accomplie par Dieu à la croix du calvaire est une œuvre qui nous intéresse, sur laquelle nous méditons? Les œuvres de Dieu sont manifestes et se manifestent même là où nous ne les attendons pas. Rappelez-vous ce que les disciples disent quand ils voient cet aveugle né. Ils disent: Seigneur, qui a péché? Est-ce cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Et Jésus répond: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Et partout où nous regardons, nous pouvons voir que, si nous regardons bien, que Dieu est à l'œuvre. Même dans la situation pandémique que nous traversons, nous pouvons voir que Dieu est à l'œuvre. Comme il a été à l'œuvre dans la vie de cet aveugle qu'il a délivré plus tard. Et nous pouvons prier pour que Dieu, au sein de cette pandémie, accomplisse son œuvre, qu'il la manifeste, mais qu'il se souvienne de sa miséricorde, qu'il fasse grâce et qu'il permette à des âmes de se tourner vers lui. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais nous avons eu plusieurs fois des personnes qui nous ont d'elles-mêmes, demandé des explications sur la foi chrétienne depuis que cette pandémie a commencé. Et il y a deux couples qui sont venus chez nous, pas chrétiens du tout, juste de leur propre démarche. C'est pas une invitation, de leur propre démarche pour qu'on leur explique l'évangile. Et je crois que Dieu accomplit son œuvre à travers cette situation. Et il faut que l'enfant de Dieu soit conscient de cela, que nous soyons disposés, comme Habacuc, dans l'humilité, dans l'adoration et dans la supplication, à demander à ce qu'il agisse pleinement et qu'il fasse son œuvre. Que nous ayons entendu ce qu'il a annoncé. Nous avons dans la Bible tout ce que Dieu a annoncé faire, tout ce qu'il a annoncé devoir arriver. Et que nous soyons comme le prophète, plein de cette humilité et de cette supplication, en disant à Dieu: accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel, dans le cours des années, accomplis-la. On ne comprend pas tout ce qui se passe, on ne comprend pas pourquoi c'est comme ça, on ne comprend pas pourquoi ça dure, mais accomplis ton œuvre, et dans ta colère, au sein même de l'expression de ta juste colère, souviens-toi de ce que tu es. Tu es le Dieu compatissant, miséricordieux. Dieu n'oublie pas ce qu'il est. Bien sûr, il n'oublie pas ce qu'il est. Mais cela nous montre que le serviteur de Dieu doit toujours s'appuyer sur ce que Dieu est dans ce qu'il demande à Dieu. Et compatissant, lent à la colère et riche en bonté, il agit en raison de tes grandes compassions. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole, et nous te demandons que tu nous aides à la méditer encore, à contempler tes œuvres dans l'histoire, tout ce que tu as fait qui nous est révélé dans ta parole. Mais tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, et nous savons que tu œuvres encore aujourd'hui, que tu es le même Dieu qui est dans son temple, et nous devons faire silence devant toi, apprendre à contempler dans l'humilité ce que tu accomplis. Et nous voulons te demander de nous aider à regarder les choses comme nous devons les regarder, non pas d'un point de vue politique, économique, écologique, mais d'un point de vue spirituel. Seigneur, parce que tout ce qui se joue dans le monde et spirituel. Nous savons qu'il s'agit du problème de nous, hommes pécheurs, face à la sainteté, ta sainteté, la sainteté du Dieu vivant. Et nous savons que tu œuvres dans ce monde pour racheter ton peuple, pour te constituer un peuple qui t'appartienne en propre, zélé, purifié par toi et zélé pour de bonnes œuvres. Nous te remercions pour ce que tu fais. Nous te prions, Seigneur, que tu nous donnes d'être des hommes et des femmes comme Habacuc qui regardons à toi au lieu de nous comparer les uns aux autres et qui viennent à toi dans l'humilité, l'adoration avec le saint désir que ta parole s'accomplisse, que ton œuvre s'accomplisse dans ce monde. Que tu nous donnes même d'être les vecteurs aussi, ce que tu utilises pour propager pleinement ta parole. Nous te prions ces choses en ton nom et pour ta seule gloire. Amen.